France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau pour vous accompagner sur France Culture en ce dimanche matin dans ce soleil, le rendez-vous protestant produit par la Fédération protestante de France. Nous sommes le dimanche des Rameaux aujourd'hui qui marque le premier jour de la Semaine Sainte, nous conduisant jusqu'à Pâques, un temps particulier au cœur de la foi chrétienne, véritable fête religieuse chrétienne, plus que Noël encore sans doute. Pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes, c'est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Mais Pâques est aussi célébrée dans le judaïsme, Pessah, la Pâque juive, commémoration cette fois-ci de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Guidés par Moïse, les Hébreux se sont libérés du joug de l'esclavage. Pessah est la célébration d'une expérience radicale de libération collective. Et puis d'ailleurs, théologiquement, la Pâque chrétienne vient grandement aussi s'appuyer sur la Pâque juive. Cette année, les musulmans viennent aussi tout récemment de vivre le temps du Ramadan. Alors une période, elle, de recherche d'une certaine grandeur spirituelle pour renforcer les liens avec Allah. À la différence de Pâques et de Pessah, le Ramadan n'a pas de date ni de période fixe. Il peut tomber à n'importe quel moment de l'année, ce mois sacré qui constitue le 9e mois du calendrier lunaire. Des fêtes, des rites, des traditions différentes qui nous donneront en fait ce matin l'occasion de discuter sur la question de la laïcité avec Jean-Paul Augier, docteur en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, auteur d'essais, notamment d'un livre co-signé avec Françoise Bourron et Dieu dans tout ça, manuel de laïcité pour vivre ensemble aux éditions Erol. Bonjour Jean-Paul Augier.
Bonjour.
Entrer dans cette question de la laïcité, du vivre ensemble, de l'interreligieux, par la porte des fêtes, n'est pas incongru. Les fêtes, elles sont là et elles nous marquent tous et elles sont souvent inspirées de moments en lien avec la foi.
Oui, c'est sûr. Les fêtes, c'est le vivre ensemble. Mmh. Mais il faut que ce vivre ensemble soit pas seulement communautaire, c'est-à-dire interreligieuse. Et j'ai un peu peur quand même que les fêtes, en tout cas en France, aujourd'hui, ouais, sont fêtées un peu à part. Les musulmans pour l'Eid Fitr après le Ramadan, donc les juifs, les chrétiens. Et peut-être ce qui est un déficit chez les chrétiens, à mon avis, c'est le sens justement de la communauté, qui est plus fort, à mon avis, chez les musulmans et chez les juifs. En tout cas, c'est certains musulmans et certains juifs, bien sûr. Il faut toujours relativiser, c'est toujours plus compliqué. Et je pense que le christianisme peut-être peut creuser cet aspect beaucoup plus communautaire, beaucoup plus chaleureuse. Je veux dire, après le culte de Pâques, par exemple, les gens vont chez eux manger un bon repas. Ouais, donc c'est très bien. Mais c'est pas si communautaire que cela.
Ouais, ouais, ouais. Oui, je sens ce que vous voulez dire. Alors on va en parler. J'avais envie de revenir au mot laïcité déjà pour situer les choses. Un terme utilisé
galvaudé.
Ouais, j'allais dire en veux-tu en voilà comme ça. Un peu comme un parapluie parfois, voilà. Des fois même un bouclier pour se protéger. Vous, comment pourriez-vous nous le définir, redonner le vrai sens, je dirais, au terme ?
La liberté de conscience. C'est l'article 1.
C'est ça, la base.
C'est l'article fondamental de la loi de séparation. Cette liberté de conscience qui a été voulue, notamment par les protestants, on se rappelle du pasteur Rabaud Saint-Étienne. Ce n'est pas la tolérance que je veux, c'est la liberté. Donc, et ça, c'est le socle de la séparation. Bien sûr, il y a la neutralité de l'État. Il y a le fait, comme disait Alexandre Vinet, vous savez, ce penseur, ce théologien, ce poète aussi, ce philosophe suisse, en fait, du canton de Vaud, qui voulait un État libre pour une Église libre. Mmh. Et donc, et c'est vrai qu'on définit la laïcité dans la non-ingérence de l'État dans les affaires religieuses et la non-ingérence des églises ou des religions, évidemment, dans les affaires de l'État. Mais je pense que la liberté de conscience est absolument fondamentale, parce que c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa religion, d'accepter aussi qu'on ne soit pas religieux. Donc, et ça parle beaucoup plus dans une société quand même qui à la fois se sécularise. C'est un fait que les croyants, les chrétiens, ne serait-ce que les catholiques par exemple, c'est quoi ? C'est à peu près 50% de la population maintenant. Beaucoup moins chez les jeunes. Les protestants sont très minoritaires. Et puis, il y a une pluralisation aussi de la foi avec l'islam, notamment, qui est la deuxième confession en France. Et donc, à la fois, cette sécularisation, cette pluralisation, eh bien, elle nous amène à dire que cette liberté de conscience, elle est vraiment fondamentale si on veut qu'on soit toujours ensemble.
Historiquement, vous le soulignez, les protestants ont été cheville ouvrière dans la mise en place de la laïcité. Et depuis très longtemps, en fait, je reprenais un texte fondateur, la Confession d'Augsbourg de Philippe Mélenchon, qui énonce en 1530 combien les deux sphères du religieux et du politique ont chacune leurs responsabilités et leurs prérogatives, et combien, sans les confondre ni les séparer totalement, elles sont présentes au cœur de la cité et au cœur de chacun.
Oui. Mais je pense que pour être plus juste au niveau de la confession d'Augsbourg, c'est le problème aussi pas seulement du luthéranisme du XVIe siècle, mais aussi du courant réformé, c'est que évidemment on distingue les deux pouvoirs, même chez les réformés, parce que les réformés ont une autre conception, c'est l'idée quand même de souveraineté de Dieu, alors que chez les luthériens, c'est voilà, le domaine de César et le domaine de Dieu. Mais César, c'est quand même le pouvoir voulu par Dieu. Ouais. Et donc, c'est quand même pas laïque, cela, on peut dire. C'est peut-être des petits précurseurs de laïcité, mais je crois fondamentalement que la laïcité est née des Lumières, quand même. Ouais. Même si dans le protestantisme, à travers son histoire, il y a toujours eu ce débat sur les relations entre État et Église. Pensons à l'anabaptisme dont on commémore ou on fête les 500 ans cette année.
Nous aurons deux émissions cet été consacrées à ce thème.
Qui s'est séparé du cercle zwinglien ou du cercle luthérien, mais qui ont été très courageux parce que c'est justement cette distanciation de l'Église par rapport à l'État, cette non-violence aussi, en tout cas pour certains anabaptistes. Après, c'est plus compliqué. Mais en même temps, le problème de l'anabaptisme, c'est que on est un peu des purs par rapport à un mal environnant. Ouais. Et ça, non plus, c'est pas non plus les prémices d'une laïcité.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien
donc,
sûr.
Mais ce sont des prémices quand même, des questionnements que le protestantisme a eu tout au long de son histoire. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé d'Alexandre Vinet tout à l'heure. Oui. Au XIXe siècle, ces mouvements dissidents du protestantisme, y compris des églises historiques, on va dire comme ça, des églises liées à l'État, qui disent non, ce n'est pas possible d'être lié à l'État, il faut avoir des églises libres. Et donc, ce mouvement libriste, qui a des répercussions en France, puisque c'est la création des églises évangéliques libres, donc juste après, quelques années après Alexandre, la rupture dans le canton de Vaud l'église réformée évangélique et les dissidents, l'église libre d'Alexandre Vinet. Donc, là, on peut dire qu'on est dans une conception plus proche de la laïcité. Parce que on est déjà au XIXe siècle, on a l'apport des Lumières, et puis on a évidemment l'héritage de la Réforme, les deux permettant une approche plus intéressante par rapport à ce qu'on fera, en fait, dans les lois étatiques, les lois laïques.
Alors, dans votre livre « Et Dieu dans tout ça », vous choisissez de donner des repères pour éviter de tomber, justement, dans les caricatures. Et vous le faites avec pédagogie, évidemment, mais aussi avec un côté ludique, une vraie part d'humour, grâce notamment à des illustrations de Christian Gravier. Le livre, on suit 5 amis qui sont de confession et d'adhésion différentes, un juif, une catholique, un musulman, un athée et une pasteur protestante. C'est important que ça soit une pasteur, j'imagine.
Oui, c'est important
parce que
évidemment, le livre est là pour essayer de re-questionner tous les schémas un peu simplificateurs que beaucoup de gens, que nous avons tous, parce que on veut pas tout connaître, donc on
s'implifie. Mais typiquement, c'est un livre qui devrait être dans tout foyer, je dirais, aujourd'hui.
Ben oui,
je pense que vous serez d'accord.
Je serais tout à fait d'accord, oui.
Parce qu'il y a là vraiment les choses essentielles pour mieux comprendre comment vivre ensemble, parce que les questions se posent. Ses amis se retrouvent dans une retraite de 8 jours en Ardèche.
En Ardèche, voilà. Alors, l'Ardèche, c'est rien de le hasard, évidemment.
Bien sûr, quand on écrit.
Quand on écrit, donc ça fait référence à un hameau familial pour moi, oui. Du côté de ma maman. Donc,
c'est racine. Vous êtes protestant, vous-même.
Oui, je suis protestant, donc c'est un terroir protestant. On n'a pas voulu prendre les Cévennes parce que c'était trop typé. donc l'Ardèche, tout le monde ne sait pas que l'Ardèche a un terroir protestant, donc les choses sont plus faciles. Le hameau est existant, en fait, sauf que je n'ai pas de grand-père pasteur. Voilà, ouais. Je suis pas Camille. Voilà. Et donc, c'était intéressant parce que, voilà, il y avait le cimetière familial, il y avait le temple, et donc il y avait des références. On était obligé d'être dans un terroir marqueur.
Oui, bien sûr.
Du protestantisme, voilà, historique.
Si je vous comprends bien, ce que vous défendez en fait dans ce livre, c'est que pour mieux vivre ensemble et pour que la laïcité fonctionne, l'une des solutions, c'est tout simplement de se connaître, c'est d'en parler, c'est d'apprendre à se parler, c'est de donner de la place à chacune et à chacun finalement.
Oui, c'est parce qu'en fait, dans la discussion, on a des personnes qui sont convaincues, en fait, qui connaissent leur foi ou leur adhésion culturelle aussi, les deux, hein, les choses sont imbriquées. Et on a un athée. Et ça, c'est très
important.
Julien est athée. Donc, lui, il rentre dans la discussion parce qu'il est cinéphile. Et donc, il y a beaucoup de références du cinéma.
Bien
et voilà, sûr. C'est comme ça qu'il peut rentrer. Autrement, il n'a pas d'éducation religieuse, il ne croit pas en Dieu, il est athée.
Mais il a ses repères culturels.
Il a ses repères culturels, exactement. Et surtout, il pose les questions que tout le monde a envie de poser. Des questions sans tabou.
Ouais.
Voilà, sur tous les sujets.
Je vous propose une petite pause musicale pour découvrir le dernier titre d'Anna Featherstone, Footprints Underground, une chanson en hommage aux victimes de guerre quand justement, souvent, eh bien, le vivre ensemble n'existe plus, quand on ne se parle plus, mais que la religion, entre autres, et d'autres choses encore, elle n'est pas la seule cause des guerres, évidemment, mais que ces choses divisent, séparent et tuent. Anna explique l'avoir écrite alors qu'elle regardait des images de zones de guerre enneigées recouvrant les empreintes de vie passées sous silence. Une vidéo a été réalisée en collaboration avec sa sœur Cara Thompson, visible sur YouTube, qui a créé un visualiseur à partir de données statistiques expliquées en légende de la vidéo. À savoir encore que les droits de la chanson sont reversés à l'association MEDER, une organisation humanitaire chrétienne, membre de la Fédération protestante de France, qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées dans des contextes de conflits, d'épidémies, de catastrophes, pour les aider à retrouver espoir et dignité.
Thank you. There must be something, something that they can do. They have washed their hands, their lonely hands, on the footprints underground.
Très très belle chanson d'Anna Featherstone, Footprints Underground. Jean-Pierre Augier, nous continuons ce Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, en parlant laïcité, vivre ensemble, interreligieux, avec à notre table, dans le studio de la Maison de la Radio, notre chroniqueur Vincent Smetana. Vincent, lui, vient de Belgique. La laïcité là-bas se vit certainement un peu différemment de la France, j'imagine. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir, comme toujours, le mot pour dire. Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-Luc. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Henri et vous dire qu'avec les dinosaures et le Big Bang, Dieu est la question qui passionne le plus Henri. Alors un jour, il décide de s'y intéresser, mais genre à fond, et de commencer pour pouvoir enfin en finir par interroger les adultes qui l'entourent. C'est ici qu'il sera légitime de se demander si c'est une bonne idée en général d'interroger les adultes qui nous entourent quand on se pose des questions sur la vie et surtout des questions de fond, genre pourquoi a-t-on peur du noir ? Ou encore mieux, et Dieu dans tout ce bazar. Bon, Henri, dans la famille d'Henri, je demande le père qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a un avis très tranché. Allez, j'y vais. Il faut régler son compte à Dieu comme s'il s'agissait du Père Noël. Tiens, prends-toi ça dans la tronche.
Ça c'est dit en tout cas, et c'est vrai que parfois certains avis sur Dieu se résument à ça.
Des fois c'est sûr, il faut s'accrocher. Ouais. Alors bon, dans la famille d'Henri, je demande maintenant la grand-mère. Elle entretient d'excellentes relations avec Dieu et serait enchantée que son petit-fils fasse de même. Ainsi balancé, Henri ne se sent pas très avancé. Peut-on prier Dieu pour avoir de bonnes notes en dictée? Est-ce que la prière peut influer sur le goût de la purée? Dieu peut-il, oui ou non, dispenser à Henri de manger des choux de Bruxelles sans être privé de récré? Et si on parle de se mettre à table avec la Bible? Jean-Luc, ouais, petit clin d'œil. Sa mère, par exemple, a autant de mal à décider si elle croit en Dieu ou non qu'à savoir ce qu'elle va faire à souper le soir même. Souper, c'est belge, hein, c'est le repas du soir.
Le dîner.
Ce qui, entre nous, soit dit, ce n'est pas peu dire, tartine ou baguette, hein? Porc ou poisson, pâte ou patate, c'est de l'ordre de l'existentialisme domestique. Cependant que celle ou celui qui a des oreilles entende ceci, la maman d'Henri considère sans autre négociation possible qu'il faut connaître les récits de la Bible, tout comme il est indispensable d'avoir appris les fables de La Fontaine. Ici me vient donc de manière irrépressible cette question. Jean-Luc, connaissez-vous vos fables? Et vous, auditrices et auditeurs de culture, planqués dans votre cuisine, votre salon, votre voiture, connaissez-vous vos fables? Les amis, ce que pense la maman du garçon est passionnant. Ce lien entre les récits de la Bible et les fables de Jean, ça donnerait quoi? Ça donnerait Jésus, la belette et le petit lapin? Ou parabole du renard et du semeur sorti semer avec un fromage entre les dents? Parabole du chien prodigue à qui on a coupé les oreilles? Parabole du samaritain qui veut se faire aussi gros que le bœuf? Celle de la perle et du hérisson? Celle aussi de l'homme riche qui court après la fortune qui l'attend dans son lit? Parabole des Parisien malade de la peste, bref.
Il y a un projet littéraire là.
Là-dessus, hein, sur les... il y a un projet littéraire, il y a quelque chose à faire. Quelle est l'idée? Voilà, quelle est l'idée? Que notre pensée soit accueillante au génie d'un patrimoine d'humanité partagé en faveur du vivre ensemble. Oh là là, Vincent, non mais s'il vous plaît, le vivre ensemble, mais c'est fatigant cette expression, ça ne veut plus rien dire à la fin. Comment? Comment ça, ça veut plus rien dire? Mais si, vivre avec les autres que moi, en harmonie, en respect, en plasticité, en élasticité, en laïcité. Tiens, c'est amusant, ça rime. Vous avez remarqué? Laïcité, plasticité, élasticité, c'est une coïncidence ou bien quoi?
C'est amusant en tout cas. Moi, j'y avais pas pensé. Pas sûr non plus que Jean-Paul se soit penché sur cette question. Mais...
plasticité, laïcité, non.
Non. Mais continuez, Vincent.
Bon, laïcité. Laïcité de l'adjectif laïque, du latin elasticus. Hein? Mais non, allez, je rigole. Laïcus. Laïcus qui veut dire commun, ordinaire. Laïcité, mot qui apparaît en 1871 dans le journal La Patrie à propos d'une polémique sur l'instruction religieuse dans l'enseignement. Si j'avais dit polémique apparue en 2025, ça aurait été crédible aussi. Hein. Ouais. On n'a pas fini avec ça, les amis. C'est quoi l'idée? Fable ou parabole? Même combat? En 2016, déjà dans L'Homme qui voyait à travers les visages, Éric Emmanuel Schmitt écrivait ceci. Jésus avait pourtant créé la laïcité en déclarant « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu ». Qui m'a établi pour vous juger ou régler vos partages? Or, le contraire se développait. Le religieux, loin de s'affranchir du politique, du militaire, de l'économique et du civil, s'y infiltrait, voire les préemptait. Ça craint tout ça. Et si, Et si nous avions l'audace d'une laïcité reformulée, celle qui tisserait entre nous une quête vive et inspirante de sens et de lien, hein, quitter l'inamovible pour cultiver ce riche terreau d'humanité partagée, liberté non seulement d'être, mais de construire ensemble l'humain dans la diversité de sa pensée, une humanité plus aimante, plus curieuse, plus émerveillée, donc plus accueillante, plus plastique, plus élastique, non ? Quoi ? Ça paraît impossible ? Rien ne sert de gémir, Jean-Luc. Il faut penser à point.
Waouh ! Mais quel final ! Que la maman d'Henri aurait adoré certainement. Bravo Vincent, merci pour cet éclairage. Jean-Paul Augier, je reviens vers vous en reprenant jour par jour les thèmes abordés dans votre livre. Premier jour, la peur. Pourquoi les religions font-elles si peur ? Deuxième jour, des croyances communes. Ensuite, des religions à visage multiple, des courants atypiques, le pouvoir religieux, les rites, sexe et religion, une relation problématique. Et puis, le huitième jour, laïque, la laïcité, une alternative aux guerres de religion. Qu'est-ce que vous retenez finalement de tout ça ? Où se situe peut-être le plus de facilité et le plus de fragilité ? Et quels sont les grands défis que vous repérez pour aujourd'hui ?
Ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le nationalisme religieux. Ouais. Qui n'est pas seulement un nationalisme chrétien, puisque si nous regardons l'Inde, nous avons un nationalisme hindouiste. On a des nationalismes islamiques et aussi des nationalismes chrétiens. Mais je suis beaucoup plus touché, évidemment, en tant que protestant, du nationalisme chrétien qui orchestre le religieux à des fins uniquement identitaires, qui n'a absolument rien à voir avec une démarche de foi, ou en tout cas, ou qui biaise la foi aussi. Parce que je suis sûr que parmi les blancs évangéliques trumpistes, pour faire court, et évidemment un peu caricatural, parce que tous les évangéliques n'ont pas voté pour Trump, et même des protestants non évangéliques ont dû voter pour Trump, oui. Évidemment. Les catholiques ont voté majoritairement pour Trump. Donc les choses sont... Mais... je ne sais pas si on se rend compte que c'est une distorsion, mais c'est plus qu'une distorsion, c'est une trahison du message de Jésus.
Oui, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, vraiment.
Oui, j'espère que la communion mondiale des églises réformées se réunit là en Thaïlande cette année, et j'espère que ça sera un sujet de condamnation, le nationalisme chrétien.
Oui. Alors justement, vous le disiez, vous êtes vous-même protestant, oui. Vous êtes engagé d'ailleurs, vice-président, oui, du conseil presbytéral au foyer de l'âme à Paris.
Voilà, le protestantisme libéral.
et puis impliqué dans d'autres structures aussi. Oui. En quoi, selon vous, justement, les protestants peuvent jouer un rôle sensiblement particulier dans cette question du vivre ensemble, puisqu'on est dans une émission protestante ce matin sur France Culture.
Et déjà, les protestants libéraux ont été précurseurs. Oui. Le Parlement des religions à Chicago, c'est un pasteur unitarien qui l'a créé. Donc il y a eu quelque chose déjà de, comment dirais-je, et même en amont, l'idée de tolérance religieuse. Qu'on voit avec le philosophe protestant d'ailleurs Bayle ou John Locke, hein, donc d'étendre la tolérance religieuse donc aux non-protestants déjà, aux non-chrétiens et aux juifs et aux musulmans et même aux athées pour ce qui concerne le philosophe Pierre Bayle. De toute évidence, de toute façon, il nous faut être ensemble. C'est-à-dire décloisonner. Mais il ne faut pas penser que le fait d'être ensemble induit obligatoirement une perte d'une identité.
Ouais.
Il faut essayer, avec toute humilité, de dire qu'on n'a pas une identité au singulier, qu'on a des identités au pluriel. Qu'on est quelque chose de complexe, évidemment.
Ouais, ouais.
Mais moi, par exemple, je tiens à mon identité protestante. Mmh. Voilà. Et je suis content que le protestant, et je pense d'ailleurs que le protestantisme a un rôle à jouer dans l'interreligieux pour répondre à votre question. C'est-à-dire, en fait, d'abord, alors, si on prend le cas français, qui est le plus simple, le protestantisme a été une minorité. Donc, de fait, il ne fait pas peur. C'est une confession horizontale aussi. Mmh. Et évidemment, avec l'écuménisme qui s'est développé avec Vatican II, donc les relations sont assez bonnes avec l'Église catholique ou les églises orthodoxes. Et si on prend le livre de Patrick Abanel, hein, les Juifs et protestants, les affinités électives, On voit bien que les relations entre protestantisme français et judaïsme ont été anciens et très forts, avec évidemment l'affaire Dreyfus, avec ce qui s'est passé sous le régime de Vichy et la collaboration. Et puis, voilà. Donc, et puis, sur l'islam, comme le protestantisme est horizontal, évidemment, il a beaucoup plus de possibilités de lien avec l'islam. Et donc, je pense que le protestant peut être le cœur des relations interreligieuses. Alors, c'est pas parce que je suis protestant, c'est pas un cocorico protestant, c'est simplement parce que je le pense. Ouais, ouais. L'Église catholique a été longtemps dominante, elle est quand même une structure très pyramidale. C'est, à mon avis, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mmh. Exactement.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Augier d'être venu ce matin au micro de Solae. Je rappelle votre livre aux éditions Erol, co-signé avec Françoise Bourron, « Et Dieu dans tout ça », manuel de laïcité pour vivre ensemble. Plus de 300 pages extrêmement instructives, mais aussi très agréables à lire, pour moins de 20 euros. Comme je le disais, dans toutes les maisons, c'est un livre qui pourrait trouver place aisément. Nous nous retrouvons cet après-midi à 16h pour l'ultime rendez-vous de ce temps du carême protestant avec Marie-Pierre Courneau, ce cheminement avec Ruth, la pourvoyeuse de vie. Dimanche prochain à 10h, Solae est tout à fait spécial pour évoquer bien sûr Pâques avec le pasteur baptiste Arnaud Jeuche, mais aussi pour fêter la 200e émission de Solae sur France Culture. Et pour nous quitter, une chanson de Noël Colombier qui va très bien avec tout ça, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ.
Sur un fusil, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ.
Est-ce un tort de vouloir libérer son pays pour être à part entière indien ou bengali? Et pourquoi a-t-on traité comme un assassin le premier qui a fait la grève de la faim?
Il ne mettait jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ.
Est-ce mal dit?
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Claire Levasseur, la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence protestante, c'est le magazine Écriture de Marion Muller-Collard qui interroge ce matin Rosie Pinas-Delpech, femme de lettres et spécialiste de l'hébreu. Ensemble, elles rencontreront Claire Grusson, artiste peintre et sculptrice. A tout à l'heure à 16h pour la dernière de ce Solae le Carême protestant 2025 sur Culture, où ce sont dans quelques instants les informations, avec à la suite Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Je vous souhaite un bon dimanche à chacune et chacun.
Il ne mettait jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ.
Dans cette même terre où leur sang a coulé, ces paroles d'amour on les a enterrées. Mais un prochain printemps elles refleuriront. Alors oui, ce sera la vraie révolution.
Jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Ils ne mettaient jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King. Jamais la main sur un fusil. Gandhi.